c'est pas surprenant parce que depuis 2011, on avait toute une série d'indications comme quoi Katumbi allait se positionner dans la course à la présidentielle après les deux mandats de Joseph Kabila.
Alors, quelles raisons peut-on supposer pour le moment choisi pour cette décision, si c'est depuis 2011 en particulier qu'on pouvait s'y attendre?
Mais en 2011, il faut dire que Katumbi et Kabila sont dans une sorte d'alliance opportuniste, c'est-à-dire que Katumbi, c'est quelqu'un qui pèse assez lourd politiquement. Et on croit savoir qu'il y avait une sorte de deal ou une sorte de gentleman agreement entre les deux pour se dire, voilà, que moi j'ai fait mes deux mandats et puis par la suite on verra. Et je pense que Katumbi était dans cette disposition. Il y a eu le mandat de 2006 et puis constitutionnellement le mandat de 2011, malgré les conditions dans lesquelles les élections sont déroulées. Et maintenant qu'on tend vers la fin du mandat de Kabila, il est normal pour toute personne qui a une ambition présidentielle de pouvoir se prononcer. Et je pense que la période qui est plus ou moins une année, un peu plus d'une année de la fin du mandat, ça paraît raisonnable, surtout au vu des évolutions de la situation politique actuelle au Congo.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il choisit cette voie-là de dénoncer des dérives? Est-ce que c'est un positionnement en vue de la présidentielle? C'est déjà une candidature indirecte?
Mais c'est une candidature indirecte, mais c'est aussi, ça fait partie d'une stratégie de communication politique. Parce qu'il faut laisser le suspense et il faut essayer de centrer l'information autour de soi plutôt que faire une déclaration en une fois. Ça fait partie d'une stratégie de tester aussi la réaction populaire. Et il ne faut pas perdre de vue qu'en décembre de l'année passée, il était revenu d'une longue absence dont on disait médicale. Et au retour, il a lancé l'histoire avec la parabole des trois faux pénaltys. Et le public l'a interprété comme si il faisait allusion à trois mandats de Kabila. Donc c'était une façon de préparer psychologiquement la population. Et ici, je pense qu'il passe dans une deuxième phase, qui sera une phase qui précède la phase où il va annoncer ses intentions politiques, de dire que je démissionne, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas tout faire en une fois. Dire que je démissionne parce que je vais être candidat, peut-être démissionner pour expliquer les raisons pour lesquelles il démissionne et par après, une fois qu'il sera libre de ses mouvements, de ses obligations par rapport à son parti, il pourra s'exprimer en homme politique libre qui n'a plus de contraintes partisanes ou politiques qui le pousseraient à avoir un langage mesuré ou réservé. Et je pense que c'est une étape préalable à une annonce de la candidature. Cela est conduit par tout le monde. Aussi, tout est fait en fonction aussi de l'évolution du processus électoral. Est-ce qu'il doit parler de la présidentielle alors que l'agenda est flou? C'est pour cela que dans sa déclaration, il parle de toutes les manœuvres qui sont faites pour pouvoir retarder les élections. Donc il veut d'abord fustiger le processus électoral avant de se porter candidat.
Alors il aurait pu aussi se joindre aux dissidents qui ont déjà pris position il y a déjà quelques mois, enfin pendant l'été, le fameux G7. Est-ce qu'il s'agit là seulement d'ambition personnelle? C'est pour ça qu'il rejoint le mouvement un peu tardivement?
Non, je pense que ce sont deux choses séparées, mais qui quelque part vont se converger quelque part. Le groupe de 7, c'est un groupe qui a commencé déjà son action pas récemment, mais c'est depuis 2010-2011, où ils ont d'abord essayé de créer un courant libéral au sein de la majorité présidentielle. Ça a été étouffé, ils ont été rappelés à l'ordre, et puis ils ont récidivé l'année passée, où ils ont demandé clairement à Kabila de ne pas modifier la Constitution. Parce que c'était le groupe qui s'était opposé. Et sans mettre à mal leur mandat en disant qu'ils participent dans les débats internes pour pouvoir donner leur point de vue. Stratégiquement, je pense que Katumbi était peut-être dans une situation politique ou sécuritaire de faiblesse où il n'avait peut-être pas encore peaufiné ou ficelé son plan, sa stratégie pour les présidentielles de 2011 et pouvoir s'annoncer comme ça, surtout en début d'une législature ou en milieu d'une législature, c'était un peu risqué. Maintenant que les choses tendent vers la fin du mandat de Kabila, il s'est prononcé, mais je ne pense pas qu'il le fait pour récupérer quelque chose, et il a mûrement réfléchi, et dans certains milieux, depuis 2011, il a déclaré vouloir, en 2016, si Kabila reste au pouvoir, ce ne sera pas ni contre Tshisekedi, ni contre Jean-Pierre Bemba ou tout autre opposant, mais ce sera le problème entre Kabila et moi, Katumbi.
Est-ce que vous pensez que le vent tourne pour Joseph Kabila, là, lentement, avec tous ces frondeurs?
On ne peut pas le confirmé comme tel, mais il y a beaucoup de signaux qui montrent que la page Kabila est en train de se tourner assez progressivement. D'abord les frondeurs qui ne sont que la partie émergée hein, de la dynamique et qui pourrait se mettre en place. Il y a d'autres qui sont encore retenus parce qu'ils veulent peut-être aller jusqu'au bout en bénéficiant de certains avantages. Mais depuis 2014, on a senti que la majorité présidentielle était divisée, était non cohérente, et alors qu'à la même époque, Kabila cherchait à avoir une cohésion nationale, et dans nos analyses, nous avons dit qu'il devait d'abord commencer par créer, consolider sa plateforme, créer une cohésion interne qui n'existait plus par des débats qui ont presque toutes abouti à des non-résolutions, à des prises de position divergentes entre les différentes tendances au sein de sa majorité. Et maintenant qu'il a l'opposition qui ne veut plus aller dans le sens du dialogue qu'il veut conduire, et de l'autre côté, vous avez les événements de janvier où la population a montré clairement qu'elle n'est pas prête, elle refuse toute troisième candidature de Kabila. Et quand on voit aussi sur le plan international la tension qu'il y a entre le Congo et la MONUSCO et certains partenaires extérieurs qui étaient supposés être plus ou moins ses alliés, tous dénoncent toute tentative de pouvoir se perpétuer au pouvoir, on peut tout doucement penser à comment conjuguer tout doucement la page Kabila au passé.